Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture. Patrimoine, spectacle, visite et initiative, l'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes sept dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Aujourd'hui avec Isabelle, on vous propose des devoirs de vacances bien agréables, de la lecture. L'année s'est vite écoulée, trop vite comme toujours, et vous avez peut-être laissé passer de bons livres. Avec nos invités, on vous donne quelques idées. Et nos invités en studio aujourd'hui, c'est Sébastien Pitot de la librairie Lériot à Angers. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marie.
Et Marie-Josée Dine. Marie-Josée, bonjour.
Bonjour Marie.
On va commencer dans quelques instants avec vous. On entre dans le vif du sujet avec vous Marie-Josée. Quel est votre premier conseil de lecture pour les auditeurs de Radio Campus ?
Alors, il s'agit du roman « Les mangeurs de nuit » de Marie Charelle aux éditions L'Observatoire. Je constate que je ne suis pas la seule à aimer ce roman, car il fait grand bruit dans les médias, depuis qu'il a remporté, entre autres, le prix Ouest France « Étonnant voyageur 2023 ». Pour moi, il remplit trois critères importants pour un bonheur de lecture. L'écriture d'abord, l'histoire et l'attachement au personnage. Avec un bonus, dans le cas présent, un suspense qui nous tient en haleine toute la durée du roman. De quoi s'agit-il ? En 1926, une jeune japonaise choisie dans un catalogue de photos quitte son pays pour épouser au Canada un immigré japonais, comme convenu dans les lettres qu'ils ont échangées. Elle espère une vie meilleure, mais la photo envoyée par Kuma ne correspond pas à la réalité et Aika apprendra aussi qu'il a menti sur sa situation financière. Trop tard, mariage puis naissance d'Anna, que son père, poète à ses heures perdues, baignera de contes japonais. Il y a également Jack, amérindien, un solitaire qui hait la ville. Il veille sur la forêt avec ses deux chiens et il compte les saumons dans les ruisseaux. Un événement dramatique favorisera la rencontre d'Anna et de Jack. En effet, quand Jack recueille Anna dans les années 50, celle-ci est en mauvais état. Elle a connu des deuils, du racisme en tant que jaune, la fuite et l'errance. Jack va la soigner dans son antre, à l'abri des hommes. Et tous deux cohabiteront avec leurs secrets et leurs souffrances. Ils puiseront leur force dans la beauté de la nature, en contrepoint de la réalité historique d'une extrême violence. En résumé, souffrance, courage et force, communion avec la nature et, ce qui m'a le plus plu, pouvoir salvateur des mots. Ce roman, Les mangeurs de nuit, c'est de la lumière sur de la noirceur, comme des petites lucioles dans la nuit. J'ai adoré.
Parfait, donc c'est écrit par Marie Charelle, Les mangeurs de nuit, et l'éditeur c'est L'Observatoire.
Si voilà.
Alors Marie-Josée, vous êtes une passionnée. Aujourd'hui à Franche Culture, ce qui nous intéresse c'est votre passion pour la littérature. Vous avez un blog littéraire, Le Banquet des mots, sur Canal Blog.
Oui.
Vous avez un compte Instagram très actif qui s'appelle Fumée de lecture.
Oui.
Vos publications sont joliment mises en scène, c'est un minimum pour Instagram. Mais vous n'êtes pas née avec Internet, moi non plus. Et pourquoi une passionnée de lecture tient un blog et un compte Insta ? Qu'est-ce que ça vous apporte ?
Eh bien, je vais vous le dire. Ça m'oblige à une certaine discipline parce que je suis en retraite. Et quand on quitte le monde du travail, si on ne s'impose pas une écriture, on n'écrit plus rien. Donc, comme j'aime les mots, quand j'écris mes articles, je cherche le mot juste, je compulse encore le dictionnaire, et c'est une discipline personnelle.
Vous êtes seule à tenir le blog ?
Non, nous sommes plusieurs.
Vous avez commencé quand ? Parce que j'ai pas trouvé.
Il y a 10 ans.
Il y a 10 ans.
Donc, Depuis que je suis en retraite, en fait.
Parmi les premiers blogs.
Oui.
Et ça marche toujours? Les gens vont sur votre blog?
Moi, je constate que les blogs sont un peu démodés. Mais par contre, Instagram, c'est très actif, ouais, très vivant.
Ça marche du tonnerre. La librairie Hilario aussi a un compte Instagram. Mm-hmm. Alors, Marie-Josée, vous nous présentez non pas un livre là maintenant, mais une saga. Un auteur très connu. Allez-y. Oui.
Alors, après Les Mangeurs de Nuit, j'ai eu un problème. Que lire après un tel livre? J'ai ouvert plusieurs romans d'auteurs que d'habitude j'apprécie, comme Franck Buys ou Philippe Claudel. Mais j'ai vite refermé les livres. Ce n'était pas le bon moment. Alors je me suis dit, pourquoi pas Pierre Lemaître avec sa dernière trilogie sur les 30 Glorieuses. Je n'ai jamais lu cet auteur. Mais dès les premiers chapitres du premier tome intitulé « Le Grand Monde », publié chez Calman Lévy en janvier 22, mais déjà en poche, j'ai senti un ton, un rythme et une atmosphère qui m'ont fait tourner les pages à toute vitesse. Nous sommes en 1948 et suivons la vie peu ordinaire de la famille Pelletier, dont les parents habitent Beyrouth et dont les quatre enfants, trois garçons et une fille, quittent le nid familial pour vivre à Saïgon ou à Paris. Alors, Pierre Lemaître, c'est un conteur hors pair. Et son pavé de plus de 500 pages est imbibé d'humour de bout en bout. On rit beaucoup, spécialement quand intervient le personnage haut en couleur qu'est Geneviève. Une épouse imprévisible et impossible à vivre. Mais moi, j'attendais sa prochaine frasque avec gourmandise. Le pavé palpitant s'achève avec une annonce fracassante, pas catholique du tout. Et comme je suis curieuse, eh bien j'ai enchaîné avec le deuxième tome, intitulé « Le silence et la colère », toujours aux éditions Calman Lévy, sorti en janvier 2023. Tout aussi captivant, voire plus encore à mon goût. Nous sommes en 1952. Les cinq membres de la famille Pelletier jouent leur partition à un rythme effréné et nous voilà embarqués dans une nouvelle aventure sautillante d'humour. L'histoire est riche de péripéties collectives et intimes, comme le silence des femmes qui avortent et la colère des ouvrières qui font grève. Mais c'est le style de Pierre Lemaître, capiteux, fluide et tourbillonnant d'air frais qui est un vrai régal. Chaque fois que l'odieuse Geneviève ouvrait la bouche, je riais, transpercée par son audace vénéneuse. Autant vous dire que j'attends la sortie du troisième roman avec impatience. Mais j'ai un conseil pour terminer, c'est mieux de lire le premier tome d'abord.
Souvent, pour une trilogie, c'est mieux que le premier tome. Merci beaucoup, Marie-Josée. Et pour clore cette première salve d'idées lectures, Isabelle, vous allez nous partager un livre qui vous a particulièrement touché cette année, un livre au titre bien intrigant.
Oui, il s'agit du Bureau d'éclaircissement des destins de Gaëlle Nohant, qui est publié cette année chez Grasset. C'est un livre passionnant, à la fois historique et romanesque.
Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ces mots « Bureau d'éclaircissement des destins » ?
Alors, on est à Arolsen, dans l'ex-Allemagne de l'Est, et il s'agit d'un bureau d'investigation et de recherche sur les persécutions nazies créées après-guerre par les Alliés. Et ce bureau réunit un fonds documentaire impressionnant, mais aussi des objets sans valeur provenant des camps. Les objets précieux, eux, avaient été dérobés immédiatement par les nazis.
Quel est le personnage principal ?
C'est Irène. Employée du centre depuis 1990 et qui se découvre une vocation pour le travail d'investigation. Elle est méticuleuse, obsessionnelle et elle est chargée d'enquêter sur ces objets retrouvés à la fermeture des camps de concentration. Elle doit tenter de les restituer aux familles de leurs propriétaires. Ce sont des objets qui brisent des silences mais qui apportent aussi de l'apaisement, des objets d'une immense valeur symbolique et affective qui vont bouleverser des vies. Parmi lesquels un pierrot en tissu, un médaillon, un mouchoir brodé. Chaque objet renferme ses secrets et on va se passionner pour les enquêtes d'Irène.
Alors les enquêtes, donc plusieurs enquêtes, ça signifie beaucoup de personnages.
Eh oui, on fait connaissance avec une trentaine de personnages dont Irène remonte l'histoire. Des destins particulièrement bien romancés qui sonnent si juste qu'on dirait qu'ils ont réellement existé. Chaque chapitre est attribué à un personnage et certaines scènes, notamment à la fin du roman, dans le jardin d'une maison de retraite, m'ont bouleversée. Les rencontres d'Irène avec les familles sont décrites avec beaucoup de sensibilité.
Alors, est-ce que l'intrigue est facile à suivre ?
Oui, mais il faut être bien concentré parce que les personnages s'entrecroisent et que les prénoms ne sont pas tous familiers. C'est un roman dense et très bien documenté.
Les thèmes de la Shoah, des persécutions nazies, ont été très largement évoqués dans la littérature contemporaine. Est-ce que c'est simplement un roman de plus ?
Bon, c'est vrai qu'il existe beaucoup de romans sur la Shoah. Celui-là n'est pas vraiment sur la guerre, mais plutôt sur les traces qu'a pu laisser la guerre dans nos vies et dans les vies des familles. J'ai appris beaucoup de choses, comme ce bureau d'investigation d'Harolsen, dont je n'avais jamais entendu parler auparavant et qui existe bel et bien. Ces incroyables archives qui reçoivent encore 1 millier de demandes par mois provenant des 4 coins du monde, notamment des jeunes générations en quête d'informations sur leurs aïeuls, dont les destins ont été cachés ou sont restés méconnue. Harolsen, qui d'ailleurs était une ville nazie où il y avait plus d'uniformes nazis que de civils. Une ville à l'histoire hallucinante que nous dévoile l'auteur. J'ai découvert aussi l'épisode de la révolte de Treblinka ou celle des petits lapins de Ravensbrück. Ces jeunes filles qui servaient de cobayes médicaux et qui ont été cachées dans le camp par d'autres déportées extrêmement courageuses. Et Gaël Nohant y dévoile aussi ses enlèvements d'enfants juifs dans les pays occupés comme la Pologne pour les faire adopter dans des familles de bons Allemands et les déposséder de leur identité.
Alors Isabelle, vous confirmez ce choix de lecture ?
Eh oui, il est difficile de se détacher des personnages une fois ce roman refermé. Ils nous habitent encore longtemps. Ne laissez pas leur mort éclipser leur vie, nous exhorte Gaël Nohant. Ce livre est mon coup de cœur.
Merci Isabelle. Je rappelle le titre, Le bureau d'éclaircissement des destins de Gaël Nohant, paru aux éditions Grasset. Alors pour une petite pause musicale de circonstance, hein, été 83, c'était il y a 40 ans, les meilleurs ont eu leur adolescence en 80, c'est les Bananarama avec Cruel Summer. Vous êtes toujours sur Radio Campus. Pour cette seconde partie d'émission, Franche Culture vous donne des idées de lecture pour l'été, un peu des devoirs de vacances sympas. Avec notre deuxième invité, Sébastien Pitot de la librairie Lériot, qui se trouve place de la Visitation à Angers, quartier de la gare, pour ceux qui ne connaissent pas bien la ville ou qui sont fâchés avec les mots. Donc voilà, juste quartier de la gare. Alors Sébastien, quelle est votre première idée de lecture ?
La première idée, je vais vous emmener en voyage, je vais vous faire descendre le fleuve qui accompagne nos vies, c'est la Loire, c'est un livre qui s'appelle La forme du fleuve, l'auteur c'est Gwenaël Aboulivier, l'éditeur c'est Le mot et le reste, et c'est un magnifique livre. Gwenaël Aboulivier, elle a pris la suite, la place de Emmanuelle Ruben, si vous le savez, si vous le connaissez, c'est-à-dire qu'elle est devenue directrice de la maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil, et elle nous livre un magnifique livre qui parle de la Loire, qui parle de ses habitants, qui parle des gens qui y travaillent. Et elle va aussi parler de celui qui a habité la maison qu'elle habite actuellement, c'est-à-dire Julien Gracq, Louis Poirier, et elle en livre quelque chose d'extraordinaire, puisqu'en fait, elle nous emmène en balade avec lui et avec elle. On a envie de descendre ce fleuve, on a envie de découvrir ces îles et ceux qui les font vivre, puisque par exemple, elle va aller à la rencontre d'un berger qui élève des moutons sur une île de Loire, et ça, il faut le savoir, il y a encore des gens qui travaillent, il y a des îles de Loire, et elles sont en fait...
Exploitées,
voilà, il y a des exploitations agricoles, et il y a ce berger qui est près d'Anceny et qui travaille avec ses moutons sur la Loire. Un très beau voyage que je conseille et une très belle lecture.
Donc elle est directrice de la Maison Gracq qui est très active, la Maison Gracq. Régulièrement, il y a des écrivains qui en prennent la direction.
Oui, il y a beaucoup de résidences, il y a beaucoup d'auteurs invités et beaucoup de choses qui sont faites autour de la littérature.
Elle sert à aider les écrivains à écrire.
Exactement.
Alors Julien Gracq, son vrai nom c'est Louis Poirier.
Pour ça
que vous avez cité les deux.
Exactement. Mais elle nous parle surtout de Louis Poirier et de son histoire, en fait, de son ascendance et comment il est venu à l'écriture et comment il nous passionne encore. Aujourd'hui.
Voilà, et en fait, il habitait la région, il y tenait beaucoup.
Géographe à l'origine, il est professeur, il a enseigné dans beaucoup d'établissements, et puis cette région, il y est toujours revenu, il y est mort, il y a vécu toute sa vie dans cette maison familiale. qu'il a léguée à l'État.
Et qui a été transformée
exactement.
En résidence d'écrivain.
Et c'est là qu'il a écrit tous ses ouvrages également.
Il a voyagé quand même, hein, il s'est déplacé pas mal.
Il était à Nantes aussi.
Oui, il a été à Nantes, il a été à Caen, il a été en Europe. Il a beaucoup voyagé. C'est un écrivain voyageur, mais il est toujours revenu à Saint-Florent-le-Vieil.
Au bord de la Loire.
Exactement. Port d'attache.
Quelle est votre deuxième idée de lecture pour l'été ?
Une deuxième lecture beaucoup plus légère. Cette fois, on va aller en Italie. Ça s'appelle Un coup de soleil. On avait le Cruel Summer tout à l'heure de Bananarama. On aura Le coup de soleil de Richard Cocciante, peut-être.
Non.
On ne sait
Allez-y.
Pas. Coup de soleil, c'est un livre de Serena Giuliano. C'est paru chez Robert Laffont. Et c'est un magnifique livre très léger pour l'été, pour partir en vacances et à emmener au bord de la plage où que vous soyez, ou en bord de Loire, si vous allez en bord de Loire avec le premier livre. L'histoire, c'est l'histoire d'Éléonore. Éléonore, c'est une jeune femme française qui vit en Italie à Salerne. Il lui arrive un grand malheur dans sa vie. Elle vient de quitter son compagnon. Elle le regrette. Comme quoi, il peut nous arriver des décisions comme ça qui sont involues. Elle a beaucoup de remords. Et du coup, elle se met à faire quelque chose de pas bien du tout, mais qu'on ferait certainement aujourd'hui avec toutes ces nouvelles technologies qu'on a dans nos poches, c'est-à-dire qu'elle va essayer d'espionner cet ancien compagnon, cet ancien amant, par tous les moyens. Aujourd'hui, on a accès, on parlait tout à l'heure d'Instagram, on parlait de Facebook ou des réseaux sociaux. On peut avoir pas mal d'informations sur ce que font les autres, et donc elle va espionner cet ancien compagnon. Et puis, il y a quelque chose de plus soutenu, de plus important, de plus dense aussi, c'est qu'elle est femme de ménage et chaque jour de la semaine, en fait, elle rentre dans l'intimité, dans la vie de personne. Et à chaque fois, en fait, à chaque journée, elle découvre un nouvel univers, un nouvel habitat. Et elle est tellement proche, en fait, de ces gens qu'elle en devient indispensable, en fait. Le premier jour, elle travaille pour un médecin et elle est le petit ange qui passe inaperçu mais qui est ô combien importante. Le second jour, elle passe plus de temps à discuter avec une personne âgée pour qui elle tient plus le rôle de confidente, d'accompagnante que de femme de ménage. Et le troisième jour, par exemple, elle intervient auprès d'un couple où l'épouse a dit surtout ne dites pas à mon mari si vous le croisez un jour que vous êtes la femme de ménage, je ne suis pas censée être là. Et bien évidemment, il va se passer pas mal de péripéties. Et pourquoi j'ai aimé énormément ce roman ? Parce qu'elle est très piquante. En fait, c'est une héroïne qui ne mâche pas ses mots, qui ne mâche pas ses actes. Et on la trouve vraiment très drôle. Et se mettre au service, en fait, des autres, c'est aussi une notion qui n'est pas évidente aujourd'hui. Et elle le fait très, très bien.
Dans une grande humilité, parce que femme de ménage, c'est parmi les premiers métiers les plus humbles.
Et oui, et cette proximité avec l'intimité des autres, finalement, parce que quand on est femme de ménage, on est une petite souris qui ne se montre pas et on est au plus proche des autres, voilà, oui. Qui sait tout. Et voilà, c'est un roman pétillant, et pour l'été, vous partez avec ça en vacances, vous passez un très bon moment, vous rigolez, et puis vous apprenez plein de choses pour espionner les gens sur les réseaux sociaux.
Plutôt léger, mais profond. Sébastien Pitot, merci pour ces deux idées de lecture pour l'été. J'invite les auditeurs à se rendre dans les librairies, bien sûr, et à la librairie Lériot en particulier, bien entendu. Il y a beaucoup de propositions autour de la littérature à Angers. À Franche Culture, on aime particulièrement les entretiens littéraires qui sont organisés à la Collégiale Saint-Martin. On aime aussi les rendez-vous à la pause déjeuner de Lisez pour vivre à la bibliothèque de l'UCO. C'est là où on a fait connaissance de Marie-Josée Dine. Et Sébastien Pitot, pour la rentrée, vous avez deux rencontres d'organiser, je crois, j'espère que je ne me trompe pas, deux rencontres d'écrivains en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En septembre, la première?
Alors en septembre,
c'est
la première.
C'est pas secret, c'est bon.
Non, c'est pas secret, c'est pas secret. On est dans une période où on essaie de démarcher les auteurs, démarcher les maisons d'édition. En septembre, on aura le plaisir, la joie de recevoir Claire Berest, la sœur d'Anne.
Ouais. Voilà, une famille
des sœurs qui écrivent de magnifiques romans. Donc on la recevra pour son nouveau roman qui va apparaître chez Albin Michel à la fin du mois d'août pour la rentrée littéraire. L'histoire d'un homme qui va commettre l'irréparable. On parle beaucoup de féminicide, et c'est ce qui va se passer dans ce couple. Et puis, en octobre, on aura un maître du polar, on recevra un auteur phare de la série noire de chez Gallimard, c'est Caryl Ferret
qui est français.
Il est totalement français, mais il nous emmène à chaque fois dans des pays très lointains et avec des situations assez remarquables à chaque fois. Donc un maître du polar qui arrivera et puis bien d'autres.
Ça fait une dizaine d'années qu'il écrit à peu près.
Peut-être même un peu plus, il a eu beaucoup de succès.
C'est des romans noirs là, on est
Très noir. Vous avez peut-être entendu parler de Zulu, notamment, qui avait été adapté au cinéma avec Orlando Bloom, et puis cet acteur qui a eu un Oscar dont j'ai oublié le nom, forcément.
C'est Caryl Ferret.
Mapuche, il y a eu LED, il y a eu de très très grands romans policiers.
Alors si on veut, il faut réserver pour aller voir Claire Berest et Caryl Ferret.
Effectivement, il risque d'y avoir du monde. Ouais.
C'est à la librairie, place de la Visitation.
C'est à la librairie, exactement. C'est le même principe que pour les entretiens littéraires de la collégiale Saint-Martin.
Il faut vous envoyer un mail ou
vous passez, vous téléphonez, vous envoyez un mail, vous nous contactez par Instagram, par Pigeon Voyageur, comme vous voulez.
Le compte Instagram de la librairie Lériot est très très bien fait et très actif aussi.
Merci.
Alors, pour finir, Marie-Josée, je vous ai eu au téléphone lundi soir pour préparer l'émission, et là, Marie-Josée, elle a lu un livre ce week-end et elle veut absolument, absolument en parler. Allez, votre coup de cœur du week-end.
Oui.
Un article déjà publié sur votre blog, mais allez-y.
Oui. Donc, ce week-end, j'ai été sciée par un premier roman étranger. Le titre, Une terrible délicatesse, de l'anglaise Jo Browning Vroe, W-R-O-E, édité pour la traduction française aux éditions Les Escales. Je signale que ce roman fut l'événement littéraire au Royaume-Uni en 2022, et sur la couverture, on lit un commentaire du journal The Observer, je cite, « un des 10 meilleurs premiers romans de 2022 ». Je confirme, ce roman est une pépite de délicatesse, bouleversant. Et je suis sortie de cette lecture les yeux mouillés, submergée d'émotions. Nous sommes en octobre 66. William Lavery, 19 ans, vient de recevoir son diplôme d'embaumeur. Il va rejoindre l'entreprise familiale de pompes funèbres. Je vous rassure tout de suite, les passages sur le travail de thanatopracteur, qui consiste à donner aux morts une apparence digne au-delà de la mort, ne sont pas glauques. Et quand il en est question, on découvre un métier noble, plein de respect pour le défunt. Je reviens à la soirée de remise de diplôme qui bat son plein quand arrive un télégramme annonçant une terrible nouvelle. Un glissement de terrain dans la petite ville minière d'Aberfan a enseveli une école. William se porte immédiatement volontaire pour prêter main forte aux autres embaumeurs, car dans la catastrophe, 144 personnes ont perdu la vie, dont 116 enfants. Sa vie sera bouleversée par cette tragédie. Par ailleurs, William a un don. Il a une voix exceptionnelle et il aurait dû être chanteur. Pourtant, il arrêtera de chanter. Pourquoi ? Pourquoi ne parle-t-il plus à sa mère, ni à son meilleur ami, Martin, qu'il a connu dès l'adolescence à l'internat ? Et moi, pourquoi ce livre m'a plu ? Par les thèmes abordés. Et je vais en citer seulement trois, car ils sont nombreux, étant donné que nous rencontrons dans ce roman des personnages complexes. Premièrement, je suis fascinée par le pouvoir surnaturel d'une voix qui chante divinement bien en solo. L'amitié est traitée dans ce roman d'une façon très émouvante et met l'accent sur son aura lumineuse et chimique, totalement incontrôlable, alors que dans le cas présent, cette amitié a été mise à rude épreuve. Enfin, l'intelligence du pardon est mise en avant et fait réfléchir. En résumé, ce roman est une mosaïque d'émotions, d'une grande justesse. Courez à la librairie Lériot, vous procurez ce livre merveilleux.
Alors c'est une terrible délicatesse de Jo Browning-Vrow. C'est un premier roman, c'est quelqu'un de jeune ?
Non, elle a écrit son premier roman à 58 ans. Ah. Et elle a vécu toute son enfance dans un crématorium. Son père tenait un crématorium. 58 ans et donc... Voilà. À 58 ans, vous faire un best-seller.
Ouais. C'est un best-seller en Angleterre ?
Ah bah oui.
Merci beaucoup, beaucoup Marie-Josée. On va clore cette émission, ces idées de lecture pour l'été. Voilà, des devoirs de vacances bien, bien, bien agréables. Merci à vous Marie-Josée, merci à vous Sébastien, merci Isabelle d'avoir participé à cette dernière émission avant l'été. Pour la co-animation, merci Isabelle, merci à Émilie qui nous accompagne fidèlement à la technique toute l'année. Merci à Bénédicte qui l'a secondé à la technique aujourd'hui aussi. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h et bien sûr en podcast qui va être mis en ligne. Cette semaine, je vous mettrai dans le podcast tous les liens de la librairie Lériot, les liens des livres, les liens des blogs, des comptes Instagram. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très bel été à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.